Bienvenue à cette édition du 8 septembre 2022 des Apatrides Anonymes. C'est votre rendez-vous bimensuel pour un regard alternatif sur les actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux questions autochtones. Marie-Ève au micro qui est accompagnée de Mathieu à la régie actuellement.
Bonjour.
Oui, pas trop empêtré dans tes pitons, Mathieu.
Non, les pubs ont été très courtes.
Parce qu'on vous offre, on va vous offrir aujourd'hui une émission en duo puisque Simon est en vacances, mais inquiétez-vous pas, il nous a quand même contacté une minute coloniale qu'on va écouter tout à l'heure. Et on sera quand même trois pour la première partie de l'émission parce qu'on reçoit en entrevue Adi Anne, qui est ici. Bonjour Adi.
Bonjour.
Qui est membre de Solidarité sans frontières et avec qui on va parler de régularisation des personnes sans statut au Canada. Il y a Mathieu qui va aussi nous revenir sur la situation des travailleurs, travailleuses migrants temporaires en Ontario. Il va faire le point sur la répression au Myanmar. Et finalement, il va aussi nous proposer plusieurs événements militants auxquels là vous pouvez participer dans les prochains jours. Alors, on va lancer tout ça dans quelques secondes. Allez, notre thème musical. Sur une, on va d'abord revenir sur une bonne nouvelle en provenance de nos voisins du Sud et qui est plutôt passée inaperçue. C'est que au début du mois d'août, le département de la sécurité intérieure a annoncé qui allait abolir une politique qui date de l'ère Trump et qui consistait à renvoyer au Mexique les demandeurs d'asile pendant l'examen de leur dossier par les tribunaux. Il s'agit en fait des protocoles de protection des migrants, les PPM, une mesure qui a été surnommée « Remain in Mexico ». Ça a le mérite d'être clair, rester au Mexique, puis qui était évidemment très critiqué là, par les associations de défense des droits civiques et qui avait été mis en œuvre en 2019. C'est la deuxième fois que le gouvernement de Joe Biden essaie d'y mettre fin, mais comme on pouvait s'y attendre, les premières tentatives avaient été bloquées par des États républicains, dont évidemment le Texas. Et puis, faut savoir quand même que depuis le début de cette politique-là, il y a au moins 70 000 personnes qui ont été renvoyées au Mexique. Ça, c'est selon l'American Immigration Council. Et pendant le mandat de Biden, bien, il y a plus de 200 000 personnes qui tentaient d'entrer de façon irrégulière dans le pays, qui ont été arrêtés à la frontière chaque mois quand même, et qui ont été renvoyés, soit en vertu du PPM ou encore en vertu d'une autre politique qui était liée à la pandémie de COVID-19, là, puis qui bloquait les personnes à la frontière. On le sait, il y a des milliers de personnes de différents pays qui traversent le Mexique pour atteindre dans l'espoir, en tout cas, d'atteindre les États-Unis, en fuyant la pauvreté et la violence. Et à la mi-août, d'ailleurs, il y a 688 personnes migrantes, dont 150 mineurs, qui ont été arrêtés par les autorités mexicaines lors de deux opérations dans l'État de Puebla, qui est au centre du pays. Parmi les personnes migrantes, il y en avait un peu plus de 500 qui étaient originaires du Guatemala, 80 du Honduras, 40 du Nicaragua, 40 du Salvador et 15 de Cuba. C'est quand même une longue route pour se rendre aux États-Unis. Ça, c'est selon les chiffres là, de l'Institut national des migrations, pardon. Les autorités ont aussi arrêté 4 personnes pour leur responsabilité probable dans le délit de traite d'êtres humains. Les mineurs ont été pris en charge par l'État, là, par le système de développement intégral des familles, qui est une institution publique mexicaine d'aide sociale. Puis les adultes, eux, ont été transférés dans des postes de migration pour poursuivre leur démarche administrative. Et faut savoir aussi que depuis 2014, c'est environ 6430 personnes qui sont mortes ou qui ont disparu sur la route migratoire vers les États-Unis, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers notre invitée, Adiane, comme je disais, qui est de SSF. Peut-être un peu mettre en contexte l'entrevue, c'est que le gouvernement fédéral planche actuellement sur un programme de régularisation des travailleurs et travailleuses sans statut, dont on sait vraiment pas grand-chose pour le moment. Par exemple, on estime à 500 000 personnes sans statut au Canada, mais on sait pas combien pourraient obtenir la résidence permanente avec le programme. Il y a beaucoup de groupes au Canada qui craignent donc que le programme en laisse plusieurs derrière. Et c'est pour demander un véritable programme de régularisation qui inclut toutes les personnes sans statut qu'il y a une journée pancanadienne de mobilisation qui se tient le 18 septembre prochain. Je vais vous revenir tout à l'heure avec les détails. Mais pour l'instant, en tout cas, on va discuter de tout ça avec Adi. D'abord, comme je le disais, Adi, même s'il semble que le programme soit sans précédent, en tout cas, de régularisation, c'est ce que le gouvernement fédéral en dit, en tout cas, il suscite quand même des craintes. Pourquoi?
Merci d'avoir de m'avoir invité et me donner vraiment l'opportunité de parler de ce programme et de ce qui se passe actuellement. Il y a vraiment des peurs par rapport à ce programme parce que on sait déjà que l'immigration pose toujours, chaque année on nous remue un peu le dossier de l'immigration, mais malheureusement ça a été tellement politisé à tel point que les migrants sont laissés à eux-mêmes. Donc oui, on en parle, mais là rien n'est encore définitif et on sait que le 19 c'est la rentrée parlementaire, c'est pourquoi on prend le devant pour leur dire que voilà, nous sommes là vraiment sur le terrain et que nous serons à l'écoute et que nous allons pointer du doigt toute encore, c'est-à-dire cette politique migratoire qui remet chaque année et sans régler vraiment le fond du problème.
Ouais. Et contrairement à un préjugé qui est assez bien ancré et largement répandu, la très grande majorité, en fait, des personnes sans statut au Canada sont arrivées de façon régulière. C'est-à-dire, c'est souvent des travailleurs-travailleuses temporaires, des étudiants-étudiantes qui sont arrivés sur un visa ou encore des demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là finissent par se retrouver sans statut du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a des causes systémiques à ça?
Il y a des causes systémiques, il faut oser le dire, parce que quelquefois il faut vraiment dire les mots si on veut vraiment déconstruire la chose, parce qu'il y a une certaine rhétorique utilisée par les politiques qui essayent de diaboliser les migrants tout en parlant des irréguliers, des illégaux, etc., etc. Mais enfin, c'est une rhétorique juste politique pour faire peur et pour diviser, pour mieux régner. La vérité est que ces gens, ils viennent non seulement avec des permis de travail temporaire, c'est des étudiants, mais aussi c'est des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et que le Canada, n'oublions pas, qu'a signé une convention des Nations Unies d'accueillir sur son territoire toute personne qui sent que sa vie est en danger. Que ça soit du côté de la pauvreté, que ça soit qu'elle a peur des répressions politiques et... Il faut le dire que tous ces gouvernants, que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, les Occidentaux d'une manière générale, ils cautionnent des dictateurs dans les pays du tiers-monde qui tuent, persécutent leur population. Donc, il n'y a pas d'irrégulier ni d'illégal, mais c'est des gens qui cherchent une vie décente et qui se retrouvent sur le territoire canadien.
Oui, puis comme c'est un peu comme un juste retour, cet ascenseur, si tant que des États vont justement appuyer des États, des dictateurs dans d'autres pays, on doit quand même un peu s'attendre à ce que ça crée des mouvements de population et des demandeurs d'asile, quoi.
Ouais, et surtout, n'oublions aussi la déstabilisation. Parce que la Libye n'a pas demandé à l'armée canadienne ni à l'armée américaine de débarquer et tuer son président et laisser le pays éparpillé. On a vu ce qui s'est passé en Irak avec Colin Powell, lorsqu'il remuait son petit objet disant que oui, que l'Irak est en train de faire la guerre, la bombe atomique. Et que c'était faux. Et d'ailleurs, lui-même, il est monté au créneau après avoir tué des millions de personnes pour dire je m'excuse, mais moi je me dis qu'on ne s'excuse pas comme ça, il devait être jugé. Et on a vu ce qui se passe en Syrie et aujourd'hui on a l'Ukraine. Vous avez vu? Donc ce sont ces pays qui ont une politique de déstabilisation de pays pour des raisons géopolitiques et c'est pourquoi nous nous retrouvons avec ces migrants qui fuient juste pour sauver leur vie. Et d'autre part, pour répondre vraiment à votre question, comment ces gens se retrouvent aujourd'hui sans statut?
C'est
parce que tout simplement, après avoir travaillé 5 ans, 6 ans et qu'ils ont cotisé sur tous les droits, un bon jour, on leur dit, écoutez, vous êtes obligés de quitter le territoire, on ne croit pas à vos histoires. 5 ans, c'est toute une vie. C'est quelqu'un qui s'est intégré, c'est quelqu'un qui a une vie, mais on doit détruire tout ça autour de lui. Donc, voilà, c'est juste une politique de marginalisation, une politique de raciste, il faut oser le dire. Tu vas pour renvoyer des gens sans aucune raison, et voilà, toutes leurs cotisations vont revenir encore au capital.
Ben justement, parlons-en du capital, parce que ça m'amène justement à parler un peu plus aussi des travailleurs, travailleuses temporaires, parce que on sent en tout cas que tant au Québec qu'au Canada, il y a vraiment une volonté d'accueillir plus de migrants, en tout cas de travailleurs, travailleuses temporaires que de migrants permanents, dans le fond. Par exemple, on dit que les chiffres, là, à peu près, c'est le nombre de travailleurs migrants temporaires est passé de 66 000 en 2000 à 429 000 en 2018. C'est une augmentation de 550%. Mais ça, justement, ça profite à...
Ça profite à qui? C'est la bonne question. c'est la bonne question. Ça profite à qui? Et qu'est-ce qu'ils deviennent après? C'est ça les bonnes questions. Et d'ailleurs, même si, par exemple, aujourd'hui, on a ce discours malheureusement protectionniste qui nous dit qu'il faut protéger le français, il faut protéger... Mais parmi ces migrants, il y a des francophones qui sont spécialisés dans beaucoup de domaines, qui veulent travailler, mais après, on les renvoie parce qu'ils ne gagnent pas 55 000 $ par an. Et ouais. Ça, c'est une politique de l'ego, moi, j'ose le dire.
Ça a été donc, mis en pratique pour vrai. Moi, au début, je pensais, quand il y avait dit ça, que c'était un peu comme... des paroles en l'air, mais...
Moi, personnellement, je le dis, répète, et j'assume, j'ai 3 personnes, françaises et blanches, pour le dire, pour être plus explicite, qui ont travaillé avec moi 2 ans, mais finalement, ils n'arrivent pas à renouveler leur permis, et ils sont rentrés chez eux, et c'est des Français. Ils ne veulent juste que travailler. Donc, où est l'immigration francophone? Où est le protectionnisme du français? La francisation, donc... Il faut qu'on arrête ce discours populiste qui est en train de diaboliser d'autres et diviser vraiment pour mieux régner. Voilà.
Mais peux-tu nous parler un peu concrètement de ce que c'est, de ce que ça veut dire au quotidien de vivre sans papier dans un pays comme le Canada, tu sais, les problèmes que ça entraîne à la fois pour les adultes, pour les enfants, la famille.
Ouais. Je peux bien en parler parce que quand même, c'est des choses que j'ai vécues personnellement. C'est l'anxiété. C'est le stress, c'est la peur, c'est l'exploitation, c'est l'esclavage, pour dire les mots. Parce que si tu te retrouves dans une situation où tu peux travailler avec, tu travailles pour quelqu'un, pour essayer juste de manger, pour essayer juste de payer ton loyer, et tu finis, il te dit, écoute, je ne te paye pas, et tu n'en peux absolument rien. Tu dis quelque chose, j'appelle la police. C'est cette situation qui se trouve aujourd'hui ici au Canada. C'est une autre forme d'esclavage qu'il y a au Canada. Et pourtant, c'est pas parce que si on peut traquer quelqu'un qui n'a pas payé de taxes, vous croyez qu'on ne peut pas traquer des gens qui font travailler d'autres qui n'ont pas un statut? On peut le faire.
Ben oui.
Mais comme ça rapporte de l'argent, comme c'est une main d'œuvre très très low wage, donc pour passer un peu à l'anglicisation.
Ouais, du cheap labor là.
Voilà. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au Canada, et ces gens n'ont même pas accès aux soins. Des enfants qui leurs parents n'osent même pas les amener à l'école pour ne pas se faire repérer. Donc c'est une situation vraiment humanitaire catastrophique, mais malheureusement le Canada et le Québec ne méritent pas ça, mais nos gouvernants cautionnent et ils le font sciemment.
Oui, il y avait Valérie Plante à un moment donné qui avait parlé de faire de Montréal une ville sanctuaire, mais
écoute, moi j'ai... Et si vous parlez à SSF, ils vous diront que je fais partie des gens qui disent... Moi, je ne parle plus aux politiques.
Ouais.
Parce que je ne sais pas si vous êtes... Bon, je suis sûr que vous êtes dans les médias. Vous avez vu le programme des anges gardiens?
Oui.
Combien de personnes sont laissées à elles-mêmes aujourd'hui? Ouais. Et nous avons Momodou Konaté, dont on a parlé même du problème à l'Assemblée du Québec, qui aujourd'hui est convoqué encore le 19, non, plutôt le 20, pour être déporté. Et pourtant, ce gars, au moment où tout le monde a fui les CHSLD, lui, il était là. Lui, il était là. Et c'est il est originaire de la Côte d'Ivoire, c'est un francophone.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est juste que, moi, je crois, le plus important pour pour l'être humain, avant de juger, avant de croire aux paroles des autres, que ce soit moi, que ce soit un autre. On a au moins les facultés d'aller rencontrer les gens et de les parler et de les connaître avant de les juger. Et c'est la meilleure manière pour essayer de se déconstruire et d'être humain et d'avoir le sentiment humain envers les autres.
Mmh. On va écouter, on va passer en musique quelques minutes pour se donner le temps de prendre une gorgée d'eau. Et en fait, on va écouter le groupe, c'est un groupe originaire de Lyon, en France, peut-être que tu connais. Il s'appelle Bongo Hop. La pièce, c'est Clouds, et elle est tirée de leur album La Napa, qui est paru en mai dernier. C'est le troisième album de cette formation-là, qui vous allez entendre aux influences afro-caribéennes, et où les cuivres sont bien à l'honneur. Alors, on les écoute. Visiblement, on a un problème technique. On s'excuse. Donc, on va continuer. De toute façon, on est en bonne compagnie. On va continuer l'entrevue avec Adi. Alors, au-delà des papiers comme tels, là, qu'est-ce que un programme de régularisation complet changerait pour les centaines de milliers de personnes sans statut?
Ça change tout pour quelqu'un qui n'a pas de statut. D'abord, ça va changer sa vie. Il ne va pas vivre permanemment avec la peur, le stress, l'anxiété. Ça va essayer de lui donner une vie décente. Il aura droit à louer un logement pour lui, à se payer sa voiture, à travailler où il veut, comme il veut. Il ne sera pas juste tenu en otage par quelqu'un. Donc, c'est juste pour un sans-papier. C'est juste une vie qui commence. C'est comme un être humain qui vient de
naître. De naître, oui. Puis la dignité aussi.
Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout la dignité. C'est surtout la dignité. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas plus. Il demande juste une dignité.
Mm.
Ouais. Et ne pas être stigmatisé comme le font certains.
Puis, en attendant qu'un tel programme existe vraiment, on verra aussi là, quand le programme se concrétisera, quand le programme fédéral, quand on en saura plus. Mais en attendant qu'il y ait un véritable programme complet, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation des personnes, de toutes ces personnes-là, et peut-être aussi pour améliorer le système d'immigration au Canada?
Ouais. D'abord, nous, finir là où j'ai commencé et arriver à ta question directement, c'est-à-dire, d'abord, on peut juste lancer un permis de travail ouvert à tous ces gens.
C'est-à-dire un permis de travail qui ne dépend pas d'un seul employeur.
D'un seul employeur. Donc, laissez les gens travailler, c'est tout. C'est-à-dire, ils veulent juste une dignité. Aujourd'hui, malheureusement, nous dépendons du travail pour avoir une certaine dignité. De deux, nous, on a proposé un programme très simple pour tous et toutes. Très simple. On n'a pas besoin de toute cette administration. On n'a pas besoin de que les gens passent la nuit devant l'immigration pour un papier ou pour un passeport. C'est possible. On en a besoin. Ils sont là, ils vivent parmi nous et ils ne bougent pas. Ils n'ont pas là où aller.
Mais non, c'est ça.
Ils ne bougent pas. Donc, on ne doit pas cautionner, de marcher sur la dignité humaine. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade et je crois qu'on ne peut plus revenir au stade de l'esclavage ou bien quand même de la colonisation et de brimer l'être humain. Ça, c'est fini. On ne peut plus revenir à ça.
Parce que, par exemple, peut-être pour expliquer un peu pour les gens, quand tu parles d'un permis de travail ouvert, c'est ça, c'est que pour les travailleurs migrants temporaires, comme le permis de travail est rattaché à un seul employeur, si jamais il y a des abus, ben pour X raisons, si jamais soit le travailleur en question perd son emploi ou que lui souhaite quitter parce que, par exemple, il y a des abus ou parce que son employeur le paie pas ou parce qu'il est mal logé, peu importe les raisons, ben là, le travailleur se retrouve justement sans permis de travail et donc sans papier. C'est ce qui fait aussi là que beaucoup de personnes se retrouvent sans statut et là doit recommencer des nouvelles démarches auprès d'un nouvel employeur. Mais entre-temps, il se retrouve avec rien.
Ouais, mais nous, c'est-à-dire ce qu'on veut juste que la liberté qu'on donne aux employeurs, il faut la donner à l'employé.
Ben oui, c'est ça.
C'est tout, c'est-à-dire on cherche on dit pas qu'il faut casser les employeurs, on dit pas qu'il faut punir les employeurs. Non, mais on dit aussi que l'être humain est né libre et il doit mourir libre. Donc, il prend sa responsabilité. Donc, si quelqu'un quitte un emploi, c'est parce qu'il n'est pas satisfait de cet emploi. Donc, ouais. Et quand on lutte pour la dignité humaine, d'abord, on met la personne en avant, on la met devant ses responsabilités. Et ces gens ne veulent que qu'être libres et travailler librement. Et je crois que même les employeurs aujourd'hui pleurent cette politique d'immigration. Les employeurs, en tête. Combien de restaurants nous avons aujourd'hui fermés? Combien d'usines ont fermé parce qu'il n'y a pas d'employés? Combien d'autres sont partis ailleurs pour essayer de se faire de chercher des employeurs? Donc, il faut qu'on arrête cette politique pour juste, c'est-à-dire coincer tout, que ça soit aujourd'hui l'éducation, que ça soit la santé, etc., etc. On essaye de faire, c'est-à-dire du temps supplémentaire. Les gens quittent les emplois parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils n'ont plus de vie, et qu'on a une opportunité pour essayer d'améliorer toutes ces choses et aller vers l'avant. Mais comme ça peut enrichir certains, le problème est clos. On essaie de nous sortir d'autres arguments qui n'ont aucune valeur humaine.
Est-ce que, par exemple, un moratoire sur les détentions, les expulsions pourrait aider aussi, justement, ouais, en mais, attendant, tu sais, je veux
mais
dire.
Mais bien sûr, nous, on a fait une manif le 28 août passé pour dénoncer la prison de Laval.
Oui, le nouveau centre.
Ouais. Et malheureusement, on nous dit une prison humaine. Moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mm. Une prison ne peut jamais être humaine, parce que déjà priver une personne de ses libertés, c'est pas humain, c'est pas vrai. Et surtout qu'on prévoit des places pour des enfants.
Ouais.
Vous vous rendez compte? Des places pour des enfants. Mm. Donc d'abord, la prison n'a pas de sens. Et moi, je crois qu'un État, la responsabilité d'un État, c'est de d'éduquer. La responsabilité d'un État, c'est de faire des centres de réinsertion s'il y a des gens qui dévient. Mais pas la prison, parce que la prison est un système colonial pour exclure certaines personnes. Et moi, personnellement, et tous ceux qui combattent pour la liberté et pour la dignité humaine sont contre les prisons. Mais pourquoi mettre 122 millions pour une prison d'immigration?
Pourrait utiliser cet argent-là pour faire baisser les coûts des procédures d'immigration, d'ailleurs.
Et puis, non seulement ça, mais c'est une prison privée.
Ouais.
Donc, ce qui veut dire qu'il faut la rentabiliser. Ouais. Le privé ne finance pas des choses où il n'y aura pas de rentabilité. Donc, il faut y mettre des gens, il faut qu'ils travaillent avec, c'est-à-dire un salaire dérisoire et tout. Mais voilà, on va enrichir encore quelqu'un.
Ouais. Ouais. Donc, on va y venir. Il y a une journée de mobilisation qui est pan-canadienne le 18 septembre, dont une manifestation à Montréal. Je vais donner les détails, mais c'est pas la première fois que vous exigez un statut pour tous et toutes. Là, il y a non seulement cette action-là s'inscrit, peut-être tu peux nous parler des autres actions qui s'inscrivent dans cette mobilisation, mais de ce qui a été fait aussi par le passé.
Ouais, SSF, Solidarité sans frontières, existe depuis 2003. Et c'est des gens, des hommes et des femmes, qui sont levés contre une injustice faite aux migrants. Parce que c'est une étude intellectuelle qui a été une étude de fond. D'abord, pourquoi ces gens quittent chez eux? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont le droit de vivre ici? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, avec toutes ces politiques géostratégiques et les extractions, font déménager des gens, font détruire des pays, créer des guerres et les capitalistes continuent à piller ces pays. Et ces gens fuient pour des raisons de dignité humaine et pour sauver leur vie. Donc, si on crée des guerres chez eux, on a au moins, il faut avoir la décence de les recevoir chez nous. Ça, c'est un minimum. Donc, depuis plusieurs années, SSF se bat pour un statut pour tous et pour toutes. Récemment, depuis 2018, où je suis quand même membre de SSF, on a eu plusieurs manifestations ici à Montréal. On a été aussi à Ottawa pour réclamer un statut pour tous et pour toutes, parce que toutes les politiques de régularisation ont échoué. Et on a toujours tiré la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement, c'est pas comme ça. même récemment avec la pandémie, on leur avait dit que c'est pas comme ça. Ils ont essayé de forcer, ça n'a jamais marché. Donc aujourd'hui, on leur donne la chance. Voilà un programme qui peut régler le problème de tout le monde et on passe à autre chose. Et on ne va pas juste prendre la vie des êtres humains pour les politiser. À chaque fois qu'on va vers une campagne électorale, on va remuer encore ce dossier d'immigration et puis voilà, essayer de stigmatiser les migrants.
Et puis, est-ce que, à part la manifestation du 18 septembre, est-ce qu'il y a autre chose, genre pétition ou des, je sais pas moi, il y a d'autres événements qui s'inscrivent dans la, tu sais, qui amènent au point culminant, disons, de la manifestation ou?
Oui, il y aura des conférences de presse, il y aura des éditorialistes qui vont prendre position, il y aura des articles dans des journaux, il y aura des intellectuels qui vont prendre position, il y a des artistes qui vont prendre position et j'espère.
Ah, c'est ça. Ouais. Ça m'amène justement, c'est ça, à parler peut-être des appuis parce que en tout cas, sens-tu que la revendication justement de la régularisation commence un peu à faire du chemin parce que tu sais on a juste à penser vers la fin du mois d'août puis même cette semaine il y a eu le Toronto Star a publié comme deux éditoriaux tu sais qui appuient clairement éditoriaux qui émane de la direction du Toronto Star là, réclame clairement l'appui de la régularisation qui appuie clairement ça la régularisation pleine et entière pour toutes les personnes sans statut qu'elles soient travailleurs travailleuses étudiants les familles les personnes réfugiées comment ça va au niveau des appuis puis toi, est-ce que ça te donne espoir ou faux espoir?
Ouais, bon, écoute, l'espoir, ça donne espoir parce que dans un combat comme celui-là, il faut avoir espoir, sinon tu baisses les armes.
Ouais.
Donc, on combat parce que tout simplement, on se dit qu'on va gagner un jour. Et puis, comme je suis un adepte d'un grand panafricaniste qui s'appelle Patrice Lumumba, au moment où les Belges voulaient le tuer, ils lui ont dit, bon voilà, tu as été premier ministre, tu as été ceci, aujourd'hui on va tuer. Il dit que non, moi je ne meurs jamais. Ils disent non, c'est pas possible, tu vas mourir. Il dit non, je ne meurs pas. Peut-être je vais disparaître, mais je ne meurs pas parce que je me bats pour une idée et l'idée va rester et d'autres vont combattre. Aujourd'hui, on parle du panafricanisme, il est le père du panafricanisme. Donc pour nous, il y a toujours espoir. Et nous vivons cet espoir chaque jour. Et aujourd'hui, avec tous ces artistes, avec toutes ces bonnes volontés, avec tous ces gens qui se battent pour la dignité humaine, sont en train de déconstruire une certaine sémantique qui a été créée pour diaboliser, pour stigmatiser les migrants. C'est pourquoi nous, on parle aux Canadiens, on parle aux Québécois, on ne parle pas aux politiques, on parle à ces gens. On leur dit que, écoutez, si vous voulez connaître la vérité, elle est là. C'est à vous d'aller la rencontrer. C'est pas en écoutant des gens qui se font élire et que vous payez vous-même. Ces gens ne vous servent pas. Ils se servent de vous. Donc, pour nous, c'est à ces gens qu'on parle. On va essayer de déconstruire. On va essayer de mobiliser et dire aux gens, OK, et on va faire un bras de fer avec les politiques. Écoutez, si vous êtes là, c'est parce qu'on vote. Aujourd'hui, vous avez vu plus de la moitié des Canadiens et des Québécois particulièrement ne votent plus parce qu'ils ne croient plus au projet politique. Donc, c'est à ces gens qu'on parle, qu'on veut mobiliser, qu'on veut essayer de déconstruire et aller vers une société égalitaire, une société juste, une société vivable pour nous tous. Et on a peur, ne pas une société de peur et de division.
Ouais. Un gros merci, Adi, pour ta présence, pour avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit dans la rue, en tout cas, clairement, pour la manif qui, je le rappelle, là, se tient à Montréal le 18 septembre. Le départ se fait à 14h à la Place du Canada, qui est au coin René Lévesque et Peel. Ouais. Puis pour les personnes qui nous écoutent de Victoria, en Colombie-Britannique, parce qu'on est diffusé aussi sur les ondes de Radio Victoria, il y aura un rassemblement à Vancouver à 14h au Parc Grandview, la même date, le 18, étant donné que c'est une journée pan-canadienne. Fait que là, je vais...
Oui, c'est partout au Canada, hein, Marie-Ève, hein?
Oui, voilà. C'est coast to coast.
Comme nous.
Ouais. Non, mais il y a pas mal de mobilisations qui sont organisées partout au Canada.
Oui, Toronto, il y aura Ottawa, il y a Edmonton, il y a l'Alberta.
Oui, c'est ça.
C'est un peu partout.
Ouais, dans les maritimes aussi.
Oui, on donne rendez-vous à tout vraiment ceux qui veulent s'en savoir plus et tous ceux qui se combattent pour la dignité humaine d'être là et nous serons là. Ouais.
Alors Mathieu, là, qu'est-ce qu'on va écouter finalement?
On va écouter Cidi Huacho.
Ok, on va, ben parfait. Donc c'est un autre groupe français, mais franco-chilien cette fois-ci. Cidi Huacho, donc qui mélange la cumbia et le rap avec la pièce La Voisina. C'est tiré de l'album Cahier Sound System qui vient de paraître. Il était en concert à Montréal le 26 août au Colanoté, mais Mathieu et moi, on les a manqués.
Au Balatou.
Ah, au Balatou, voilà, pas au Colanoté, où ça existe plus le Colanoté. On les a manqués, alors on va se consoler en les écoutant.
C'est un groupe très connu en France.
Oui, c'est partout. Ça.
Oye, vecino, conoces la voisine? Oye, vecino, como no? Mehboula, la voisine. Elle est terrible. Terrible. La voisine, elle est terrible, elle est vénère, c'est la Guerta. Elle est rebelle, elle est guerrière, elle est Frida. À la manif, elle est en noir, elle fait hella. La maboula, elle a ta gueule commissariat. La voisine, elle est stylée. La voisine, elle a haja dans la bobine. Elle charbonne à l'usine, la voisine, elle lui baldouine. Elle boxe avec Karim, faut pas que tu baratines. Elle tabasse les misogynes. Elle dénonce les machos qui dominent. Elle déteste les Zemmour et Marine. Ma voisine, elle est subtile, elle est maligne. Elle partage le tagine avec les frangins, les frangines. Elle est terrible. Terrible. Terrible, 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 terrible.
La politica, la mécanica, la botanica.
La voisine, elle est terrible.
La politica, la mécanica, la botanica.
La voisine, elle est terrible.
La Bourbien, Calabozo y Comisaría.
La voisine, elle est terrible.
Pero nadie le quita su alegría.
La voisine, elle est terrible. C'est le tibia. À la mi-temps, à la bête d'un du Zetla. Elle fait la grève, elle veut niquer le patronat. Elle maraude la nuit, elle fait du bénévolat. Elle fait la mécanique, elle répare les trottinettes. Elle joue de la trompette dans le quartier, c'est la vedette. Faut pas lui prendre la tête quand elle a passé Nicorette. Elle a la dame et des sucettes à la supérette. Elle écrit dans sa fanzine que c'est dégueu la cantine. Que ce monde la chagrine, qu'elle soutient la Palestine. Ma voisine, elle est terrible, elle a pas trop la discipline. Ma voisine, elle est stylée, elle est stylée. La voisine, elle est terrible. Terrible, 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 terrible.
La politica, la mécanica, la botanica.
La voisine, elle est terrible.
La politica, la mécanica, la botanica.
La voisine, elle est terrible.
La durmian, calabozo y comisaría.
La voisine, elle est terrible.
Pero nadie le quita su alegría.
La voisine, elle est terrible.
Sur les ondes de choc.ca. Mathieu qui est maintenant au micro, Marie-Ève à la mise en onde. Et on s'excuse encore pour le blanc entre les deux parties d'entrevue. Plus tôt dans l'émission, on avait un problème avec les MP3, donc on a manqué la pièce de Bongo-Wop qu'on pourra peut-être reprendre une autre fois. Donc Cidi Huacho qu'on vient d'entendre avec la pièce La Voisina, qui est en espagnol et en français. Très bon groupe, très dynamique, très politisé aussi. Je vais vous parler, Marie-Ève, si ça te convient, des travailleurs migrants en Ontario particulièrement. Donc on continue un peu dans le même grand sujet. projet suite à l'entrevue que tu viens, l'excellente entrevue que tu viens de faire. Donc, les travailleurs étrangers temporaires agricoles dans le cas de l'Ontario. Première nouvelle, un tribunal administratif ontarien donne raison à des migrants dans leur poursuite initiale de 1,6 million. Pour discrimination contre la police provinciale de l'Ontario, le groupe de travailleurs agricoles soutenait que la pratique policière qui consistait à prélever l'ADN dans une enquête pour viol était contraire au Code des droits de la personne de la province. Pardon. Une cinquantaine de migrants antillais qui travaillaient à l'époque dans le sud-ouest de l'Ontario estimaient qu'ils avaient été ciblés pour des motifs raciaux dans une enquête en 2013. La poursuite pour atteinte à la dignité mentionne que dans cette affaire, les plaignants s'étaient sentis humiliés à l'époque et injustement traités à cause de la couleur de leur peau. La victime avait été agressée sexuellement sous la menace par un certain Henry Cooper qui a été arrêté plus tard et qui a été depuis condamné à la prison. La PPO, la police provinciale de l'Ontario, avait recueilli des échantillons d'ADN parmi 96 travailleurs agricoles originaires des Caraïbes dans 5 fermes du comté d'Elgin. Le tribunal note que la police a recherché et recueilli l'ADN de tous les migrants qui correspondent ou non à la description du suspect ou qu'ils aient ou non un alibi, au lieu de veiller suffisamment à ce que les travailleurs vulnérables soient en mesure de fournir un consentement volontaire et éclairé à la collecte d'ADN. L'avocat Shea Martinez précise qu'une telle conduite aurait été inimaginable à Toronto sans qu'elle ne soulève l'ire dans les communautés racisées. Dans ce cas, la police en était tirée parce que le crime a été perpétré dans un milieu rural où les migrants sont vulnérables en raison de leur emploi précaire et de leur statut d'immigration. Le jugement aura, selon lui, plusieurs conséquences sur le droit à la vie privée, sur l'exploitation des travailleurs migrants au pays et sur le comportement des policiers dans des enquêtes criminelles. La poursuite qui était demandée au départ à 1,6 million de dollars, soit 30 000 par plaignant, ça, c'était il y a 9 ans quand elle a été déposée, mais le tribunal a décidé d'accorder seulement 7 500 $ au demandeur principal. Il reste maintenant à fixer le dédommagement des 53 autres plaignants à partir de ce montant pour un individu, mais la poursuite pourrait pas atteindre plus que 405 000 $ finalement, donc les tribunaux ont beaucoup réduit les montants. Et donner une idée quand même, l'avocat Martinez rappelle que affirme qu'aujourd'hui que les policiers auraient d'abord Monsieur Martinez, l'avocat affirme que les policiers auraient d'abord dû montrer le portrait robot du violeur aux 54 travailleurs agricoles avant de demander leur ADN. Ouais. Or, ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'ont fait circuler dans la population blanche du comté. Donc, on voit vraiment la discrimination est très, très évidente. Ouais. Et c'est quand même impressionnant comme opération là, d'ADN avec on cible des gens. Sinon, quelques jours après ce jugement, un travailleur migrant originaire de la Jamaïque est décédé lors d'un accident de travail dans une ferme toujours du sud-ouest de l'Ontario. Garwin Yap, 57 ans, était tué dans un accident qui a impliqué une récolteuse de tabac. Le décès de M. Yap est survenu quelques jours après que des travailleurs migrants jamaïcains ont écrit une lettre ouverte au ministère du Travail de la Jamaïque pour lui demander de les aider afin d'améliorer leurs conditions de travail quand même. D'ailleurs, le ministre du Travail jamaïcain a fait une visite récemment dans les fermes agricoles en Ontario. L'organisme Migrant Workers Alliance for Change a indiqué qu'au moins 2 autres travailleurs migrants agricoles sont également décédés dans les dernières semaines. Dans la fameuse lettre ouverte des travailleurs, ils sont originaires surtout de la région de Niagara. Ils disent que le programme est une forme d'esclavage systémique, le programme des travailleurs agricoles temporaires. Les Jamaïcains viennent ici depuis des générations avec leurs collègues caribéens et mexicains. Il n'y a eu aucun changement significatif depuis le début du programme qui existe depuis les années 70-80. Ils décrivent leurs conditions de logement comme étant si mauvaises que des rats mangent leur nourriture. Par ailleurs, les travailleurs disent vivre dans des pièces surpeuplées, sans aucune intimité, et équipés de caméras de surveillance et qu'ils ne peuvent pas faire sécher leurs vêtements après la pluie. Je les cite, nous avons l'impression d'être en prison carrément. Ah ouais. Le Migrant Workers Alliance for Change et le syndicat des travailleurs travailleuses unis de l'alimentation et du commerce demandent au gouvernement fédéral de faire de la représentation syndicale une condition d'obtention des permis de travailleurs par les employeurs. Donc, on demande aussi au gouvernement provincial d'inclure les travailleurs agricoles dans une nouvelle législation du travail et d'offrir à ces mêmes travailleurs une voie flexible vers la résidence permanente. Ouais. Peut-être dire que aussi une professeure de l'Université de Victoria, justement, on est écouté là-bas, qui depuis 2020 s'intéresse aux conditions de vie des travailleurs saisonniers, particulièrement agricoles. Dans une étude récente, elle explique notamment que les logements précaires dans lesquels vivent bon nombre de ces travailleurs peuvent être un facteur de décès. Le fédéral a lancé des consultations publiques en 2020 auprès de plusieurs acteurs impliqués dans la cause des travailleurs agricoles, mais les pistes de solutions présentées en juillet dernier sont loin d'être convaincantes. Je cite la chercheuse, « En fait, ce que nous avons vu est encore plus faible que ce qu'avait proposé le fédéral dans le passé pour les normes de logement. C'était comme dire que peut-être en 2024, on pourrait exiger des employeurs qu'il n'y ait pas d'infestation de rongeurs dans les habitations des travailleurs. Le calendrier est complètement inadapté aux urgences du terrain. » Donc, Emploi et Développement social Canada prévoit des nouvelles exigences pour l'alimentation en eau courante, potable, chaude et froide pour les systèmes d'aération ou en matière de sécurité incendie, mais aucune norme pour le nombre de travailleurs, et ça, c'est un des problèmes. Les logements fournis relèvent des municipalités d'un paquet de différents niveaux, mais il n'y a aucune législation en tant que telle qui limite le nombre de travailleurs. Et en Ontario, il y a une ville, Edmonton, qui a essayé de le faire, mais l'Association des producteurs de fruits et de légumes ceux-ci se sont opposés à cette mesure pour avoir maximum 15 travailleurs par maison. On parle de maximum 15 là, dans des conditions. Donc, ce sera un dossier aussi à compléter éventuellement, mais en Ontario, au niveau agricole, ça brasse pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est dans l'air, évidemment, avec notre sujet d'aujourd'hui là, sur la régularisation, Marie-Ève.
Effectivement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter Simon, qui est pas là, mais qui est là.
Dans un autre univers.
Voilà.
Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. L'histoire des commencements de Montréal est un cantique sacré sur un chant de gloire, un poème héroïque, un conte divin. Le seul nom de Ville-Marie rappelle de merveilleux souvenirs de vaillance et de foi. Dans le monde entier, on ne trouverait pas une ville qui ait une origine aussi noble et aussi pure. Les fondateurs de Montréal n'avaient qu'un but, la gloire de Dieu. Parmi les personnages illustres de ces jours immortels, le regard s'arrête avec tendre émotion sur la touchante figure de cette courageuse ouvrière de la première heure qui a si largement aidé à planter dans le sol sauvage la croix et le drapeau français. Jeanne Mance naquit en 1606 à Nogent-le-Roi d'une honorable famille de la magistrature dont les vertus civiques et la foi était également traditionnel. 6 garçons et 6 filles faisaient l'ornement de ce foyer chrétien. La petite Jeanne, pieuse et recueillie, cet enfant de bénédiction, faisait la joie et l'édification des siens. Le Saint-Esprit s'était déjà si bien emparé de son âme qu'elle n'éprouvait pour le monde terrestre qu'ennui et dégoût, se préparant à l'œuvre que la divine Providence devait lui confier. Ce jour arriva, son père mourut et Dieu la releva de ce poste de tendresse filiale. En rompant ce dernier lien qui l'attachait à notre monde, il resserra le lien d'amour qui l'attachait au ciel. Il n'était bruit alors en France que de l'évangélisation de la belle colonie du Canada. Un attrait doux et puissant passait dans le cœur de Jeanne. Une lumière surnaturelle lui montrait au-delà des mers sa nouvelle mission. La petite Jeanne rencontra Madame de Bullion, cette pieuse veuve qui ne demandait qu'à dépenser pour Dieu les grands biens que venait de lui laisser son mari, et désira savoir si elle ne prendrait pas volontiers soin d'un hôpital à fonder dans la Sainte Colonie. En mai 1642, la petite flotte transportant de Québec Jeanne et le sieur de Maisonneuve vers Montréal salua par des cantiques de louanges cette terre promise. En mettant pied à terre, tous, imitant leur chef, se précipitèrent à genoux. Aussitôt, un autel fut dressé sur le rivage et promptement décoré. Dans une chaleureuse allocution, on prédit la gloire du futur Montréal dont on comparait les débuts au grain de sénévé de l'Évangile. À défaut de lampe et d'huile, on se contenta de suspendre devant un tabernacle une fiole remplie de mouches à feu qui projeta une lueur très vive et très claire. On éleva après cela une chapelle en écorce pour y loger le Saint-Sacrement. Par une protection visible de Dieu, la présence des nouveaux venus fut ignorée des Iroquois tant que ses premiers travaux les occupèrent. Les colons, dont le plus grand nombre vivait en commun, offraient alors le spectacle des chrétiens de la première église. Dès 1644, Jeanne Mance fit bâtir son hôpital, qui contenait 15 lits garnis. Il était temps, car les farouches Iroquois ne tardèrent pas à faire une guerre cruelle à la colonie et à fournir des hôtes à l'établissement naissant. C'était la Minute Coloniale, présentée par les Apatrides Anonymes.
Bon
bonjour, c'est Simon des Apatrides Anonymes. Je sais pas si cette minute coloniale vous a paru un peu différente des autres. En fait, normalement, je rédige tout de A à Z, mais pas cette fois-ci. J'ai fait un montage, un copier-coller intégral, toutes des phrases authentiques de la très, très catholique revue La Vie Nouvelle, qui était éditée à la barre à plouf, publiée quelque part dans la première moitié du 20e siècle et qui coûtait, pour l'anecdote, 10 sous l'exemplaire ou 1 $ l'abonnement annuel, avec des dossiers spéciaux très intéressants comme l'instruction obligatoire, l'ordre séraphique ou encore le cinéma corrupteur, des grands dossiers parfois préfacés par nul autre que l'ultranationaliste Lionel Groulx. La revue est numérisée à Bibliothèque et Archives nationales, BANQ, donc on peut la lire en ligne. Sur Jeanne Mance, j'aurais pu continuer longtemps à travers le langage très fleuri. On apprend quand même des choses importantes, mais présumées sur les tout premiers moments de Ville-Marie et sur l'Hôtel Dieu, donc sur l'hôpital qu'elle a fondé, qui aurait, paraît-il, été souvent détruit, dont par des tremblements de terre, selon la revue La Vie Nouvelle. Donc, ce qui me semble peut-être un peu douteux. Et surtout, un peu moins édifiant, on en apprend un peu sur les relations avec les Autochtones, ou en tout cas sur la perception que l'Église veut en donner, toujours sur un ton extrêmement paternaliste et méprisant. De toute façon, on sait que la propagande religieuse a tendance à s'arranger un petit peu avec l'histoire, on l'a vu souvent, pour carrément créer des mythes. Ici, Jeanne Mance, elle nous est présentée comme une fille ou une femme d'une perfection absolue, comme une sainte. Pourtant, j'imagine que dans l'hiver canadien, elle a dû sacrer quelquefois. Cette lecture nous confirme qu'elle et Maisonneuve et les autres, la Dauversière, Jean-Jacques Ollier, Pierre Chevrier, Madame de Bullion, dont la rue est pas très loin de Jeanne Mance, après avoir fondé la Société de Notre-Dame, ils souhaitaient établir, loin de la civilisation européenne, une communauté qui recréerait l'idéal des temps chrétiens primitifs. Bref, c'était toute une gang de fous de Dieu qui étaient à fond dans la contre-réforme anti-protestante, avec une ferveur mystique. Donc même les jésuites les trouvaient un peu freaks, au point qu'ils reprennent la direction de Ville-Marie pour faire éventuellement de Montréal le carrefour du commerce de la fourrure. Donc voilà pour la Minute coloniale, c'était Simon, en pré-enregistré cette fois-ci, de retour en studio avec Marie-Ève et Mathieu.
Merci Simon, il est pas là comme vous l'avez deviné, mais il nous a fait une belle minute coloniale. Donc on passe d'un sujet à l'autre aujourd'hui, c'est une émission chargée avec une entrevue, une minute coloniale.
Ben là, oui, là tu t'en vas au Myanmar.
Myanmar, là on parle plus de Jeanne Mance puis de Maisonneuve. Je continue ma série sur la répression, c'est ma deuxième fois que j'en parle, récemment, sur la répression à l'international. Myanmar, vous savez ce qui se passe depuis un bout, mais faut savoir que la jeune birmane a exécuté 4 prisonniers à la fin du mois de juillet, une première application de la peine de mort depuis plus de 3 décennies. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, 114 opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. Fio Zeya Ta, 41 ans, ancien député de la Ligue nationale pour la démocratie, avait été condamné pour avoir enfreint la loi antiterroriste. Kia Miniu, 53 ans, est un écrivain et opposant de longue date à l'armée. Les deux autres prisonniers exécutés sont deux hommes accusés d'avoir tué une femme qu'ils soupçonnaient d'être une informatrice de la junte. La junte poursuit justement une répression sanglante avec plus de 2000 civils tués et plus de 15 000 arrêtés depuis le coup d'État de février 2021. L'état d'urgence a été prolongé il n'y a pas très longtemps pour 6 mois. Sinon, il existe un nombre croissant de preuves selon lesquelles les crimes contre l'humanité sont commis au Myanmar depuis le coup d'État, estiment des enquêteurs de l'ONU. Dans ce rapport annuel, le mécanisme onusien d'enquête indépendant pour le Myanmar souligne que les femmes et les enfants sont particulièrement visés. Meurtres, tortures, déportations, viols, persécutions. De plus en plus de régions sont touchées et les enfants sont aussi, les enfants d'opposants sont torturés, enrôlés, détenus. Ça va très bien. Sinon, le mécanisme d'enquête s'inquiète aussi du sort des Rohingyas. Toujours 850 000 personnes qui sont dans des camps de fortune au Bangladesh. Quelques 600 000 autres se trouvent toujours dans l'état de Rakhine au Myanmar. Le 22 juillet, la Cour internationale de justice s'est déclarée compétente pour juger une accusation de génocide contre le Myanmar. Une accusation portée par la Gambie au nom de l'Organisation de la coopération islamique. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qu'on appelle toujours, estime qu'il n'est toujours pas sûr pour les réfugiés Rohingyas de retourner au Myanmar près de 5 ans après les massacres. La présence de cette énorme population de réfugiés constitue un fardeau pour le Bangladesh qui a sollicité l'aide de l'ONU pour rapatrier les Rohingyas au Myanmar aussi rapidement possible, entre guillemets. Bangladesh, c'est ça, ça va pas très bien non plus là-bas. Les réfugiés se peignent des conditions de sécurité de la communauté dans les camps après une série de meurtres et la hausse de la criminalité. Des dizaines de meurtres, d'enlèvements et de rafles policières visant les réseaux de trafic, supposément les réseaux de trafiquants de drogue, se sont déroulés dans les camps. L'ONU a également exhorté la communauté internationale à continuer de soutenir les Rohingyas malgré la tension accrue portée à d'autres conflits actuellement. Donc, dans les camps, ça va pas bien. Et au Bangladesh aussi, il y a des gros problèmes de pauvreté, de climatique, et des problèmes politiques, d'instabilité et de famine et de problèmes d'approvisionnement en nourriture. Donc, c'est déjà avoir 800 000 personnes dans des camps, même s'ils sont assez autonomes. Sinon, ben, les Nations Unies ont annoncé qu'environ 9 100 personnes ont été déplacées dans l'ouest du Myanmar cette semaine, à la suite de nouveaux affrontements entre l'armée birmane et l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, qui est une guérilla, portant le nombre de déplacés dans ce coin-là à 84 000 personnes. Donc, on est vraiment au Myanmar. Sinon, ben, dans la répression, l'ancienne ambassadrice du Royaume-Uni et son mari birman ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur l'immigration. Et en terminant, Marie-Ève, ben, Aung San Suu Kyi, hein, va continuer à avoir des procès, a été condamnée à une peine de 3 ans de prison la semaine passée pour fraude électorale au cours d'un procès fleuve. Cette énième sentence est assortie de travaux forcés.
Ben,
elle doit désormais purger 20 années de détention, mais elle risque en tout plus de 120 ans pour les multiples procès et infractions qui s'en viennent dans les prochains mois. Elle a déjà été reconnue coupable de faits de corruption, d'importation et possession illégale de Takiwaki, violation des restrictions liées au coronavirus et d'incitation aux troubles publics. Donc, Myanmar, ça s'améliore pas, mesdames et messieurs.
Non. Et la répression s'abuche, comme la prochaine toune, je pense.
Oui, merci Marie-Ève de me rappeler au bon ordre. Donc, on va entendre Sons of Arrakis, la pièce Omniscient Messiah de leur album Volume 1, qui est leur premier album sorti en juillet dernier, donc il y a 2 mois. C'est du stoner de Montréal. C'est dans le palmarès de choc qui s'appelle le palmarès Brutal. C'est le palmarès Metal Hardcore Punk. Et pour les gens de la région de Montréal, ils seront le 14 octobre prochain au Turbo House. Donc, Sons of Arrakis. We'll be right back. Sons of Arrakis, Omnisaiyan Messiah, dans le palmarès brutal de choc. Agenda, ben plusieurs choses dans la région de Montréal surtout, mais il y en a en ligne. Écoutez bien pour les gens à l'extérieur. Le Festival des Fonds de la Police, c'est ce samedi 10 septembre, midi à 22h au Parc Giroir, au Parc NDG à Montréal. Conférence, atelier, musique, art à 18h de la musique dans le cadre de Montréal versus racisme avec entre autres Chahut, Maritza et Paul Carniello. Festival organisé par le Cooper, le Concordia et la Coalition pour le définancement de la police. Le festival de films féministes de Montréal, 6e et dernière édition du 7 au 10 septembre, c'est en plein en ce moment, avec des projections à la Casa del Popolo, à la Casa d'Italia et au cinéma public, en plus de quelques films offerts en ligne. Un choix à vous suggérer. Plusieurs courts et moyens métrages de fiction sont à l'honneur sous le thème « Plus vrai que nature ». Parmi ceux-ci, « Incorrigible » de la Canadienne Karen Lee raconte l'histoire de Velma Demerson, incarcérée en 1939 pour avoir osé épouser un homme chinois. 60 ans plus tard, elle a poursuivi le gouvernement canadien pour emprisonnement injustifié. Je vous donne pas la suite, c'est dans le documentaire. Ça, c'est demain soir, 9 septembre, si vous êtes à Montréal. Sinon, c'est fffmontréal.com. Sinon, toujours dans la thématique de la journée de notre émission, régularisation maintenant, réflexion sur 20 ans de lutte radicale. Panel en ligne le 13 septembre, heure de Montréal, c'est 7h, mais c'est partout au Canada, c'est en ligne. Trois militantes qui possèdent des racines profondes avec le mouvement pour la justice migrante, qui vont réfléchir ensemble sur 20 ans de lutte pour la justice sociale. Robin Ménard, qui est militante et écrivaine. Arsha Walia, qui est écrivaine et militante aussi. Et Nazila Betache, qui est dans le collectif, entre autres, Soignons la justice sociale. Donc, trois femmes intéressantes. Donc, le 13 septembre en ligne, c'est en anglais avec traduction simultanée en français. Et je termine avec la nouvelle édition 2022 de la brochure Le racisme systémique, parlons-en. Un outil de sensibilisation conçu par les militants, militantes du comité racisme systémique, exclusion sociale et laïcité de l'État de la Ligue des droits et libertés. Une version enrichie, revisée et mise à jour de la première édition sortie en 2017 qui avait été distribuée à plus de 10 000 exemplaires. Donc, on parle de racisme systémique, de perspectives de lutte, de privilèges blancs. On parle aussi du néo-racisme, des leviers du racisme. Que pouvons-nous faire? Donc, allez sur le site de la Ligue des droits et libertés du Québec, Marie-Ève.
Merci, Mathieu. C'est d'une efficacité redoutable. Et oui, alors avant de clore complètement l'émission, je voudrais revenir rapidement sur la déclaration que François Legault a fait hier en conférence de presse en assimilant les immigrants et migrantes à l'extrémisme et à la violence. Je reviendrai pas en long en large là-dessus, mais au-delà du racisme de ses propos, il me semble qu'il faut aussi souligner l'aveuglement volontaire de l'actuel premier ministre quant à la réelle menace extrémiste au Canada, c'est-à-dire l'extrême droite. À ce propos-là, il y a une chronique parue dans Le Devoir le 25 août de Émilie Nicolas, dans laquelle elle dénonce d'ailleurs la banalisation du phénomène. Elle revient entre autres sur la poignée de main lors d'un événement de campagne du candidat à la chefferie du Parti conservateur fédéral, Pierre Poilievre, à Jeremy McKenzie, qui est fondateur du Diagolon, un homme et un groupe associé à l'extrémisme violent, par le Centre intégré d'évaluation du terrorisme, qui est l'organisme fédéral chargé de repérer les menaces à la sécurité nationale. Bon, évidemment, t'en conviendras avec moi, Mathieu,
ouais.
Un candidat connaît pas nécessairement l'identité là, de toutes les personnes à qui il sert la main lors d'un bain de foule, mais depuis que l'identité de Jeremy McKenzie a été rendue publique, non seulement Poilievre ne s'est jamais excusé, mais son silence semble pas particulièrement affecter sa campagne. Le meneur de la course du Parti conservateur peut donc serrer la main d'un extrémisme violent surveillé par les autorités antiterroristes canadiennes tranquillement, sans que ça fasse de vagues. Alors que, il y a encore deux semaines, il y a des partisans de QAnon qui ont attaqué des policiers de Peterborough en Ontario.
Oh non.
En voulant procéder à leur arrestation citoyenne.
OK, OK.
Plusieurs journalistes, des femmes surtout racisées, font l'objet aussi depuis quelques mois d'une campagne ciblée de haine. Il y a le Toronto Star, le Global News et le Hill Times et l'Association canadienne des journalistes qui ont même dû faire une sortie conjointe pour dénoncer la situation puis interpeller les services de police qui auraient, là, semble-t-il, failli à traiter avec assez de sérieux plusieurs plaintes qu'ils ont reçues. Et je conclue avec les mots d'Émilie Nicolas qui me semblent très pertinents. Imaginons un moment que ce soit le leader d'un groupe terroriste associé à l'islamisme qui serre la main de Pierre Poilievre ou qui envoie des menaces de mort et de viol à des journalistes. Pensez-vous que l'impact sur la course à la chefferie du Parti conservateur serait la même? Pensez-vous qu'on banaliserait autant la gravité des menaces reçues? Imaginons qu'un regroupement autochtone, par exemple, décide de procéder à l'arrestation citoyenne d'un corps policier. La nouvelle serait-elle traitée comme de la petite routine d'actualité politique d'été? Poser la question, c'est y répondre.
Bien sûr.
Alors, c'est ce qui clôt notre émission.
Le chef du Parti conservateur va être élu en fin de semaine. Hein?
En plus, oui, ouais, c'est ça.
Ça va être chic. Ouais.
C'est ce qui clôt notre émission. Merci à Diane de nous avoir accordé une entrevue. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à la manifestation du 18 septembre.
Peu importe où vous soyez au Canada.
Oui. Et merci à toi, Mathieu. T'as assuré malgré les petits
pépins au début de l'émission. désolé. Et merci à toi, Marie-Ève, pour l'entrevue et toute l'animation et le contenu. Pardon.
Je vous rappelle que vous pouvez nous entendre sur les ondes FM du 107.9 de Radio Victoria le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado les émissions que vous avez manquées, par exemple en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site Internet www.apatridesanonymes.info et ne vous gênez pas pour nous écrire à apatridesanonymes@resist.ca et poursuivre notre page FB.
Ooh.
On va se laisser en musique avec une pièce jazz, la pièce À ciel ouvert de la pianiste montréalaise Ariane Racicot, qui est tirée de son album Envolé, paru en mai et qui occupe quand même, la première position du palmarès jazz de Choc. Il s'agit, ce qui est quand même pas mal du tout, étant donné que c'est son premier album, c'est du jazz moderne avec des influences un peu métal et de rock progressif. Est accompagné par son bassiste Antoine Rochefort sur l'album, là, et de son batteur aussi, Guillaume Picard. Sauf que là, sur la pièce À ciel ouvert qu'on va entendre, c'est Martin Plante qui l'accompagne au batteur, comme batteur invité. Alors, on va vous souhaiter bonne soirée et on va vous dire dans deux semaines pour une émission avec une équipe de
complète.
Co-animation complète, exactement.
Donc, le 22 septembre, Marie-Ève.
Oui.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée à tout le monde.
À bientôt.